Alors, si j'arrive à fonctionner avec ces fils, on va essayer. Alors, je suis toujours un peu avec un temps de retard, car l'année dernière, j'ai voulu travailler un peu sur la miséricorde, et donc j'ai essayé de réfléchir et de relire l'évangile de Luc dans la version araméenne, la Peshitta. Et à partir de là, j'ai découvert des choses merveilleuses, que quelqu'un qui était DRH dans une grosse boîte que je ne nommerai pas parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, et qui s'est intéressé à la traduction araméenne de l'évangile et qui a publié l'année dernière un livre sur les colliers de la miséricorde. Et c'est à partir de là que je vais essayer de vous montrer des choses que je trouve merveilleuses. Pour introduire, je voudrais simplement vous rappeler que si j'ouvre l'évangile de Luc, je vois Zacharie qui entre dans le temple. Or, la prière qu'il devait faire en entrant dans le temple pour offrir l'offrande du soir, c'est « Seigneur, viens enfin faire miséricorde à ton peuple ». Et l'ange du Seigneur, l'ange Gabriel, lui apparaît et lui dit « Ta prière a été entendue, ta femme va t'enfanter un fils, ça sera le signe que le Seigneur réalise ta prière et cet enfant, tu lui donneras le nom de Jean qui signifie « Dieu fait miséricorde ». Et ainsi, on s'aperçoit que le projet de Dieu se réalise maintenant à travers la naissance de Jean-Baptiste et à travers la naissance du Messie. Et si on avait le temps, on regarderait le Magnificat. Le mot de miséricorde revient combien de fois dans le Magnificat ? Deux. Deux fois dans le Magnificat, deux fois dans le Benedictus, dans le Cantique de Zacharie, pardon, et le vieillard Siméon, dans la traduction araméenne, prononce justement « Mes yeux ont vu ta miséricorde ».« Mes yeux ont vu ta miséricorde ». Et quand je fais le calcul, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Et 5, vous, ça vous dit rien quand je prononce le mot 5. Eh bien, immédiatement, moi, je pense à la Torah. La Torah, c'est 5 livres. Eh bien, en réalité, à partir de là, dans l'évangile de Luc, on s'aperçoit qu'on peut découvrir, j'ai mis comme titre ici le collier de la miséricorde, mais j'aurais pu mettre comme titre la Torah de la miséricorde, c'est-à-dire la loi nouvelle. La Torah, c'est la loi. Eh bien, la loi nouvelle de la miséricorde dans l'évangile de Saint-Luc. Et à partir de là, des gens ont regardé comment les églises chaldéennes, c'est-à-dire qui sont à l'origine, qui parlaient araméen, qui parlent encore plus ou moins l'araméen, et à partir de là, ils ont découvert qu'il y avait des colliers qui permettaient de mémoriser l'évangile. Car autrefois, il n'y avait pas de livre. Et pour retenir l'évangile, eh bien, on avait des tas de moyens mnémotechniques à partir de nos doigts, à partir de nos phalanges, etc. Et à partir de cela, on voit apparaître, en regroupant 24 ou 25 textes, qu'on arrive à 5 colliers de la miséricorde. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer avec vous de regarder le premier collier, le grand collier de la miséricorde, et vous allez voir comment Il y a des lumières qu'on n'a jamais vues dans l'évangile et qu'on va pouvoir découvrir à travers ce premier collier fondateur de la Torah de la miséricorde, de la loi nouvelle de la miséricorde. Alors, le premier texte, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et pour entrer dans l'intelligence de ce texte, vous avez Jésus qui arrive pour traverser la ville, car il est en chemin, il est en pèlerinage vers Jérusalem. Ça, c'est important. Jésus est en route vers Jérusalem. Il est accompagné de ses disciples et d'une foule nombreuse de gens qui montaient à Jérusalem pour la fête. Voilà. Et là, il entre dans une ville qui s'appelle Naïn. Alors, dans nos traductions à nous, on appelle la veuve de Naïm. Mais en araméen, c'est Naïn, car ça veut dire 50. Et c'est là encore un symbole. Le chiffre 50, c'est l'année jubilaire, la complétude. Et Jésus s'approche du chef-lieu de cette ville qui s'appelle Issacar. Et les disciples, la foule l'accompagnent, et on nous dit qu'il touche la porte de la ville avec un verbe très important qu'on va retrouver très souvent dans l'évangile. C'est la racine araméenne, QRB, qui veut dire s'approcher jusqu'à toucher, c'est-à-dire établir un contact. Or, quand Jésus et ses disciples s'approchent de la porte de la ville jusqu'à la toucher, il faut se rappeler que à l'entrée des villes, dans la porte, il y avait des versets de la Bible qui étaient inscrits. Et donc, il se met en contact avec la parole même de Dieu. Et on nous dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Au moment où il touche la porte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un mort porté à bout de bras. Alors là, si vous regardez la télévision de temps en temps, dans les territoires occupés, il y a l'enterrement d'un Palestinien, on porte pas du tout les cercueils de la même manière. D'abord, on laisse ouvert en Palestine et on porte la civière à bout de bras, comme ça, au-dessus. Et là, vous avez quelque chose d'étonnant. Le premier texte, Jésus, il voit un mort qu'on porte en terre. Or, la mort, c'est un scandale pour nous tous. Personne n'a envie de mourir. Et là, la nouvelle Torah, elle commence par la vision d'un mort. Et de l'autre côté, si je vais tout de suite faire un petit tour ici, le malfaiteur pardonné, c'est nous sommes au pied de la croix. Nous sommes sur un petit monticule, il y a trois croix et trois personnes qui sont en train de mourir. Donc là, vous avez le mystère de la mort qui est à l'état brut au début et qui va trouver sa signification dans la dernière perle du collier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Or, là, vous avez quelque chose. Vous avez une civière qui est portée. Il y a un mort dessus. Il y a une foule. On nous dit qu'il y a une foule qui suit Jésus. Il y a ses apôtres. Et il y a une foule de gens qui étaient ses amis. Et à ce moment-là, il voit la mère, une veuve, et c'était son fils unique. Et on nous dit, Jésus est bouleversé jusqu'au plus profond de ses entrailles. Or là, vous avez le premier verbe important sur la miséricorde. Jésus qui est bouleversé jusque dans ses entrailles. Et pour comprendre la signification de ce verbe, je repense toujours à un jour où j'étais à Caron, chez des amis, et je prenais l'apéritif dehors avant de passer à table, Et la maman, elle avait accouché à peu près 15 jours, 3 semaines avant. Et il y avait le bébé dans son landau. Et à un moment, le gros chien de la famille est arrivé. Et tout content de me voir, il a déboulé comme un canon. Et il a envoyé en l'air le landau. Eh bien, le cri de la maman, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, c'est ça, les entrailles bouleversées de Jésus. Jésus est bouleversé devant ce qui arrive à l'homme. Il voit ce mort sur la civière, il voit sa mère bouleversée car c'est une veuve et donc elle n'a plus personne pour l'aider. Et Jésus est vraiment bouleversé et là, ça nous permet de comprendre comment Jésus est bouleversé devant tout ce qui arrive à l'homme. Il est bouleversé jusqu'au plus profond de ses entrailles. Et en araméen, c'est vraiment les entrailles maternelles qui vibrent quand il arrive quelque chose à son enfant. Et là, vous avez le commencement du mystère de la miséricorde, Jésus qui est bouleversé devant tout ce qui arrive à l'homme. Et repensez d'ailleurs, par exemple dans Saint Jean, vous verrez Jésus qui pleure sur la mort de Lazare. Devant le mystère de la mort, Jésus pleure, il est bouleversé. Et si je continue, à ce moment-là, il s'approche, et qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il touche la civière. C'est-à-dire qu'il établit un contact entre Dieu, lui, et la civière où il y a ce mort étendu. Les porteurs s'arrêtent, on nous dit même qu'ils sont debout, bien vivants, et Jésus va lui dire, « Jeune homme, je te le dis, relève-toi !» Avec la racine « cum »,« relève-toi !» Et immédiatement, le jeune homme se redresse avec un verbe qui est lié à la résurrection de Jésus. Et vous avez tout le monde qui est témoin de ce miracle, c'est-à-dire les disciples, la foule qui est en pèlerinage vers Jérusalem, et tous les amis de cette veuve qui a porté en terre son fils. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien qu'ils sont tous bouleversés et saisis d'une crainte spirituelle, car ils sentent bien que Dieu est à l'œuvre dans ce qui se passe, et qu'il y a un prophète qui est arrivé. Eh bien vous avez que le mystère de Dieu qui est bouleversé par toutes les morts qui habitent la vie des hommes et qu'il est bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même, la mort n'aura pas le dernier mot. Le Christ nous rejoindra dans nos morts pour nous donner la vie. Alors je prends le temps de vous lire maintenant le texte à partir de l'araméen. Et ce fut le jour d'après. Jésus allait vers un chef-lieu du nom de Naïn, et ses disciples avec lui et une foule nombreuse. Et lorsqu'ils touchèrent à la porte de la ville, il vit un mort qu'on accompagnait, un fils unique pour sa mère, et celle-ci, sa mère, elle était veuve. Et une foule nombreuse de natifs du lieu était avec elle. Quand Jésus la vit, il fut saisi jusqu'aux entrailles pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Et il s'approcha et toucha la civière. Et ceux-là qui la tenaient levée s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te le dis, relève-toi. » Et le mort se redressa. Et il commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Alors la crainte spirituelle s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole-ci se répandit dans la Judée entière, et de proche en proche, de tous côtés. Alors si vous voulez, maintenant on va aller immédiatement au dernier texte, « Le malfaiteur pardonné ». Car ces deux textes se répondent. Le Christ a commencé en en relevant ce jeune homme pour le redonner à sa mère, mais il va falloir maintenant entrer dans le mystère de la mort. Et là, je commencerai en vous lisant le texte et je le commenterai après seulement. Alors vous écoutez, c'est au chapitre 23e de Luc, les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs suspendu en croix se mit à l'insulter. « Messie, si tu l'es, tire-toi de là par toi-même et tire-nous de là nous aussi. » Et son complice le rabroua. « N'as-tu rien à craindre de Dieu ? Toi, oui, toi, toi, condamné comme lui. Et puis, pour nous, c'est juste. Tel mal nous avons fait, telle peine méritons-nous. Par lui, rien d'abject n'a été fait. Et il disait, « Ne m'oublie pas, mon Seigneur, quand tu iras dans ton royaume. » Alors, Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, toi avec moi, tu seras dans le paradis. » Alors vous avez un monticule à la sortie de Jérusalem, trois croix. Il y a deux malfaiteurs, des crapules. Et chose étonnante, si on analyse le texte, on s'aperçoit qu'on n'insiste pas trop sur le fait que ce sont vraiment des crapules odieuses qui méritaient qu'une chose, c'est d'être exécutées de la pire des manières. Et là, on sent, je ne vous l'ai pas dit, mais derrière tout cette aura de la miséricorde, on sent la présence de Marie, qui est la source d'information de Luc. Et à plusieurs endroits, on sent qu'il y a une touche maternelle qui a été mise et qui vient bien évidemment de Marie. Alors, le bon larron va dire, tel mal avons-nous fait, telle peine méritons-nous. Ça, c'était la loi juive. Et ils ont été crucifiés, ces crapules, la veille de Pâques, c'était les ennemis publics numéro un. Et l'un se moque de Jésus, il insulte Jésus, et son complice le rabroue. Toi, répété trois fois pour insister, toi, oui, toi, toi. Nous, c'est normal, humainement, et chacun de nous, si vous faisiez la liste de tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie, eh ben, vous useriez plusieurs syllabes, hein. Et c'est terrible, ça. Et le bon larron, qu'est-ce qu'il dit ? Nous, c'est normal humainement. Mais il dit à son collègue, après la mort, nous aurons la justice divine. Pour l'instant, il y a la justice humaine, on nous exécute. Mais après notre mort, il va falloir qu'on s'explique avec Dieu. Et il regarde Jésus et il dit à son collègue, lui par contre, lui, rien de mauvais n'a été fait par lui. Donc vous avez trois croix, vous avez deux crapules horribles, mais qui nous représentent tous, et au centre, vous avez la croix avec l'innocent, le Fils de Dieu. Et un des larrons qui se dit, mais actuellement on rencontre humainement, on est pendu à la croix, après il va falloir s'expliquer avec Dieu, mais vraiment lui c'est tout autre chose. Et il intercède auprès de Jésus et il reçoit la réponse de Jésus. Alors il lui dit, ne m'oublie pas quand tu iras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, amen, aujourd'hui, toi avec moi, tu seras dans le paradis. Il accepte de se reconnaître pécheur et d'entrer dans le pardon et la réparation en cheminant dans la mort avec Jésus. Et c'est là que il faut vraiment demander la grâce d'entrer dans ce mystère où c'est en vivant dans le Christ le mystère de notre propre mort que nous allons pouvoir recevoir la miséricorde divine. Et que le mystère de la mort pour nous devient par là source de vie. Alors que l'autre larron, il se moque de Jésus simplement en disant « Ben, si t'es un type qui fait des miracles, tire-toi de là et puis tire-nous-en en même temps. » Il se moque, c'est tout. Mais l'autre larron, il entre dans la logique de Dieu, la logique de la miséricorde. Car le Fils bien-aimé du Père, il est venu partager la mort de tous les hommes pour nous permettre de nous associer à sa propre mort et par là de découvrir la vie véritable en lui. Et là, vous avez quelque chose qui ne peut se comprendre, j'allais dire, qu'en méditant ce récit du malfaiteur pardonné. Il entre dans la miséricorde en acceptant d'entrer dans le chemin de mort que Jésus lui montre. Et bien sûr, le mot de paradis, c'est un mot qui vient du vieux persan, mais qui est assez rare dans l'écriture. On le voit dans le Cantique, dans le livre d'Ézéchiel une fois, et puis dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième, et dans l'Apocalypse. Alors si on reste dans la logique de Luc, vous avez l'invective du mauvais larron, le rappel de la crainte de Dieu par le bon larron, la reconnaissance de l'horreur des crimes commis et de la justice du châtiment pour eux et de l'innocence de Jésus. Et là, je pense à Thérèse d'Avila qui disait toujours qu'elle était la plus grande pécheresse de l'humanité. Eh bien, si elle est la plus grande pécheresse de l'humanité, alors nous, je ne sais pas où est-ce qu'on va se situer, hein. C'est quelque chose de terrible, là. Eh bien, je pense que plus on entre dans le mystère de l'amour de Dieu, plus on perçoit la profondeur de notre péché. Thérèse d'Avila, elle avait même entrevu la place où elle irait en enfer si elle ne répondait pas à la volonté de Dieu, au projet de Dieu sur elle. Et le chemin de vie pour le bon larron, c'est de reconnaître l'horreur des crimes commis et la justice du châtiment. Et là, il en appelle à la miséricorde. Et c'est dans cet appel à la miséricorde qu'il va trouver sa place dans le Christ et il va être entraîné par lui sur le chemin sur ce chemin de résurrection. Alors, après ça, il faut méditer le texte. J'en arrive maintenant à la perle numéro 2 et à la perle numéro 4. Car je vous ai dit qu'une des racines essentielles dans la miséricorde, c'est QRB, que je ne vais pas essayer de la prononcer en araméen. L'idée centrale, c'est vraiment s'approcher jusqu'à toucher, établir le contact avec Jésus. Et on va voir comment, dans la deuxième perle, vous avez deux personnes, une qui invite Jésus chez elle, et l'autre qui s'invite pour s'approcher de Jésus jusqu'à le toucher. C'est Simon qui va inviter Jésus très gentiment. Il va lui dire, mais est-ce que Seigneur, tu veux venir partager un repas avec moi? Et Jésus, il entre chez Simon et il se met à table. Et par contre, il y a une femme, une pécheresse qui, elle, elle a appris que Jésus est là et elle s'invite. Et elle, elle va se mettre en arrière, debout, derrière Jésus. Et elle va, là je vais prendre le texte. Parce que, excusez-moi, mais je ne le sais pas encore par cœur, car j'arrive à l'âge où la mémoire commence à défaillir. Je ne retiens plus. Vint alors parmi eux l'un des pharisiens qui l'invita à manger avec lui. Il entra et il s'installa à sa table. Mais en fait, le pharisien, il en a profité, mais sans le dire à Jésus, pour inviter tous ses collègues pharisiens. Et scribes. Et là, ils vont être terribles avec Jésus. Survint une femme de la ville, une femme pécheresse. Ayant appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle prit avec elle un pot de baume en albâtre. Alors ça veut dire que c'était un baume de prix, parce que on met pas un baume de prix dans un vase en plastique, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était debout, derrière lui, près de ses pieds, et elle pleurait. Elle commença à tremper ses pieds de ses larmes, et des cheveux de sa tête, elle les essuyait et les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus, il se mit à raisonner en lui-même et il se disait, si cet homme est prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. C'est horrible ça, c'est impensable, un prophète il ne se laisse pas toucher par une pécheresse, sinon il va participer à son péché. Et alors Jésus répondit, mais Simon il n'a rien dit, il a simplement pensé. Mais Jésus, il voit dans le cœur de Simon, et il lui dit, Simon, entre parenthèses, Simon, ça veut dire, en araméen, celui qui écoute. J'ai quelque chose à te dire. C'est en même temps des paroles et des événements. Et Jésus va lui dire, un maître de dette, c'est-à-dire un créancier, avait deux débiteurs. L'un était redevable de 500 deniers, c'est-à-dire un an de travail de 16 ouvriers, et l'autre de 100. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, à tous deux, il a laissé tomber leur dette. Lequel des deux l'en aimera le plus ? Simon répondit, « Je pense celui-là à qui il a remis la plus grande dette. » Tu raisonnes bien, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Et Jésus construit ces phrases comme les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Eh bien, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Tu ne m'as pas embrassé. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Voilà pourquoi, je te le dis, lui seront remis ses péchés nombreux, car elle a aimé de nombreuses fois, mais peu d'amour résulte d'une demande de pardon sur peu. Et en réalité, cette femme, elle a conscience de son péché, et elle pose des actes d'amour les uns après les autres. Toi, tu ne te rends même pas compte que tu es pécheur. Il dit à cette femme, « Tes péchés te sont remis. » Les autres invités se mirent à dire en eux-mêmes. Voilà, Simon avait invité Jésus, mais sans lui dire qu'il y avait d'autres invités. qui est cet homme qui va jusqu'à remettre les péchés ? Et Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a rendu la vie, la vraie vie, va en paix. Alors voilà, ça c'est vraiment deux manières de se laisser inviter. Je regarde l'heure, ça va. Alors vous avez deux invitations, le pharisien qui tient à l'invité, qui vient lui-même et laisse entendre qu'ils seront tous les deux. Jésus y va, il s'installe. La femme pécheresse, elle s'invite avec l'idée de s'approcher, à le toucher. On retrouve de nouveau la même racine, s'approcher, à le toucher. Et la réaction de l'un et de l'autre, c'est la focalisation sur les gestes de la femme. À ses pieds, en arrière, l'humilité. Elle lave les pieds, les essuie, les embaume, et entre parenthèses, elle lave avec ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux. Mais c'était un peu une honte pour une femme d'utiliser ses cheveux. La chevelure d'une femme, c'est toujours sa gloire, hein. J'allais dire comme la barbe pour les hommes. Eh bien, c'est s'humilier jusqu'à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, mais quelle humilité d'aller jusque-là. Et elle les embaume. S'il était prophète, il aurait reconnu cette pécheresse. Il y a vraiment deux réactions complètement opposées. Et finalement, derrière ce récit, on peut s'interroger nous-mêmes, mais moi, où je me situe des deux ? Est-ce que je suis comme Simon, je veux discuter avec Jésus, ou est-ce que je me situe comme cette femme, en sachant que je suis pécheur ou pécheresse ? Comment je me situe, moi, aujourd'hui ? Et Jésus va ouvrir la porte de la miséricorde par une parabole sur les dettes qu'on abandonne. Et la parabole débouche sur une question qui suppose une réponse évidente. Quel est celui qui va aimer le plus ? Ben, c'est celui à qui il a remis la plus grande dette. Et Jésus compare le comportement de Simon et celui de la femme, et il en tire la conclusion. Toi, par trois fois, tu n'as pas, c'est tu n'as pas qui font écho au commandement. Elle a lavé, essuyé, embaumé. Elle a multiplié les actes d'amour. C'est là où on voit comment la petite Thérèse, quand elle va entendre ça, la petite Thérèse, l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh ben, elle va multiplier les petits actes d'amour. Et elle a tout de suite compris qu'elle était une pauvre, et elle dit même, si le bon Dieu trouvait une âme plus pauvre que la mienne, il se précipiterait en elle pour lui donner sa miséricorde. Et là, ses nombreux péchés lui seront remis en raison de ses nombreux gestes d'amour. En même temps, Jésus reconnaît qu'elle a des péchés, hein. C'est là où il faut faire attention. Aujourd'hui, on est un peu dans une civilisation où chacun peut faire n'importe quoi. De toute façon, le bon Dieu, c'est un grand papa gâteau qui passera l'éponge sur tout. Mais non, pas du tout. Et en même temps, il y a ces nombreux actes d'amour face à ces nombreux péchés. Et puis, il y a le murmure des autres invités. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a rendu la vraie vie, va en paix. Et finalement, il y a deux manières pour les pécheurs de s'approcher de Jésus, ou pour discuter, ou pour aimer par des gestes concrets. Et là, on voit bien aujourd'hui quand il y a des gens qui viennent vous voir pour discutailler. Et ça, vous ne déboucherez jamais avec eux sur quelque chose de vrai. Par contre, Vous en avez qui viennent en posant des actes d'amour par rapport à Jésus. Et ça, vraiment, quand on a un peu d'expérience d'accueil spirituel, on sent le moment où il faut dire aux gens, arrête maintenant, va te mettre à genoux devant Jésus et reçois sa miséricorde, ouvre-toi à sa miséricorde. Parce que on peut discuter des heures, des nuits entières. Et je pense à Charles de Foucault qui demandait à l'abbé Huvelin en arrivant dans l'église Saint-Augustin, parlez-moi de Dieu. Et l'abbé Huvelin qui lui dit, mets-toi à genoux et confesse ton péché. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut établir le contact entre cet homme et son Dieu. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Alors voilà, nous avons tous à nous demander comment on va se situer. Si je vais maintenant voir Zachée. Alors Zachée, c'est un... Attendez, il faut que je m'y retrouve dans mes papiers parce que c'est un peu la pagaille. Hop. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Alors, je vous lis le texte dans sa traduction à partir de l'araméen. Et quand Jésus entra dans Jéricho, alors Jéricho, c'est quoi comme ville? C'est la porte d'entrée dans la terre promise. Et c'est pour ça que c'est une ville importante. Quand Jésus entra dans Jéricho pour la traverser, car n'oublions pas que c'est un pèlerin qui monte vers Jérusalem. Et entre parenthèses, au 19e et au début du 20e siècle, dans les images d'Épinal qu'il y avait dans toutes les maisons, on y avait l'image du pèlerin. Pourquoi? Ça nous rappelait qu'on est tous des pèlerins. Le mot paroisse, vous savez ce que ça veut dire étymologiquement? Je le rappelle toujours, mais les gens l'oublient aussitôt. Ça veut dire quoi le mot paroisse? Paco, il le sait. Ça veut dire la maison des étrangers, la maison des gens de passage. Alors que maintenant, dans nos villages, l'église, c'est vraiment, elle est au centre du village et surtout ne bougeons plus. Les paroissiens, si on leur dit la messe, elle est dans le village à 3 kilomètres, non, pas question. Mais par contre, pour aller à Leclerc ou à Auchan, ils sont capables de faire 30 kilomètres. Ça, c'est le dieu Mammon. Alors, je continue. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Et Zachée, ça veut dire celui qui a fait l'objet d'un abandon de poursuite pénale. En fait, on lui donne dès le début le nom qui correspond à ce qu'il va faire. Il était riche et c'était un publicain important. Alors, les publicains, ceux qui ramassaient les impôts, c'était un peu difficile quand même pour eux parce que ils devaient tant chaque année aux Romains. Mais si les récoltes étaient bonnes, les gens ils payaient l'impôt sans problème. Mais si les récoltes étaient mauvaises, les gens ils n'arrivaient pas à payer. Et eux, il fallait quand même qu'ils payent la somme aux Romains. Ils pouvaient pas dire les gens n'ont pas eu de récolte, je peux pas vous payer. Donc en fait, ils traficotaient pour mettre de l'argent de côté, pour se dire s'il y a une ou deux années mauvaises, on pourra quand même payer, on n'aura pas de problème. Et puis aussi, par exemple, il y avait une famille qui avait le père et qui travaillait dans les champs, qui avait des revenus, et puis au mois de juillet, le mari meurt. Donc il n'y a pas de récolte. Mais eux, ils continuaient à toucher l'impôt comme normal s'il y avait le papa. Voilà, ça c'est... Mais entre parenthèses, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Moi, j'avoue que j'entends souvent des gens me dire tricher les impôts, c'est pas tricher, c'est pas voler. C'est voler. Moi, j'y peux rien. Hein. Si vous avez un ticket de SNCF et que vous avez oublié de le composter et que vous prenez un train, est-ce que vous allez le garder pour la fois suivante ou est-ce que vous allez le jeter en disant j'ai voyagé? Il y en a qui sont prêts à se le faire rembourser. Et à Auchan un jour, moi j'ai vu comme ça c'était pas Auchan, c'était à Carrefour, à Toulouse. 62 caisses, toutes les caissières se mettent en grève. Eh ben, il y a plein de gens qui sont passés avec leur caddie. Et il y a des gens qui se sont dit, c'est la bonne aubaine de l'année, il faut aller chercher des choses plus chères. Mais la direction, elle a fermé assez rapidement les caisses et ils ont eu plein de pertes parce que les gens, du coup, ils ont abandonné leur caddie. Mais vous voyez, on est des gens comme Zachée, on l'est tous plus ou moins. Mais ils voulaient bien voir ce Jésus, mais ils ne le pouvaient pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il monte sur un figuier aux fruits fades pour bien le voir, car à cet endroit il allait passer. Et quand vient Jésus près de lui à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, vite, descends. Aujourd'hui, je vais faire halte dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est entré chez un homme pécheur pour se reposer. Alors, il se lève, Zachée. Vous avez le petit bonhomme qui se lève, ça y est, maintenant il se redresse et s'adresse au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. » Il avait le droit, ça c'était la loi romaine. « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » C'était ce que les tribunaux donnaient quand quelqu'un était pris à avoir volé. Il devait rendre 4 fois plus. Jésus lui dit, « Aujourd'hui, la vie est dans cette maison. En effet, celui-ci, il est à nouveau fils d'Abraham, car il est venu, le Fils de l'homme, pour chercher et faire revivre ceux qui sont égarés. » Alors, si on regarde la différence entre la deuxième perle et la quatrième, dans la deuxième perle, c'est deux personnes qui s'approchent de Jésus. Là, il y a un type qui se cache, il a envie de le voir, mais il veut pas trop le voir quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus est en route vers Jérusalem, il n'a pas prévu de s'arrêter à Jéricho. Mais on nous présente Zachée, un pécheur invétéré, un publicain, riche. Comme il était de petite taille, il voulait voir Jésus. Et petite taille, ici on emploie un mot, Zora, qui veut dire tout ce qui est petit dans la vie. Dans sa vie, tout était petit, parce que quand on est soumis à l'argent, tout est petit. Et vous avez la rencontre. Il monte sur un figuier. Alors, dans le texte grec, c'est marqué, il monte sur un sycomore. Alors, en fait, un figuier aux fruits fades, c'est figus morae, et ça donnera sycomore. Mais c'est une erreur de lecture à un moment donné. Analogie de la vie matérialiste de Zachée. Sa vie, ça peut donner que des fruits fades. L'argent, ça suffira jamais à nourrir le cœur de l'homme. Mais il a envie de voir Jésus, alors il monte sur ce figuier aux fruits fades, parce que s'il s'était mis dans un figuier plein de fruits, eh ben, il n'aurait pas pu voir Jésus tellement il y avait de feuilles. Et Jésus s'arrête. Et là, vous avez vraiment un ordre qui est donné. Descends vite. C'est vraiment très très fort. Hein. C'est l'ordre de Jésus, de Dieu à l'homme. Descends vite, je vais faire halte chez toi. Et c'est le verbe employé, c'est le verbe pour débattre des chameaux. Quand on arrive et qu'on veut se reposer, on fait coucher les chameaux et on les débatte, on leur enlève ce qu'ils ont sur le dos pour qu'eux aussi ils puissent souffler. Mais c'est le même verbe qui dit aussi « on desserre la ceinture pour se reposer ». Car Jésus veut faire halte chez lui, Zachée descend et le reçut. Alors là, c'est un verbe encore important qu'on retrouve très souvent, « QBL », avec joie, il le reçoit avec joie. Bien sûr, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prophète qui s'arrête chez un pécheur comme Zachée? Et Zachée, lui, il est converti. Mais pourquoi il est converti? C'est par la présence de Jésus dans sa maison. Et là, on voit bien que la question qui nous est posée à nous, il y avait Simon et la pécheresse, et maintenant il y a, est-ce qu'on a le désir de voir Jésus? Est-ce qu'on a le désir d'accueillir Jésus? Moi je vois aujourd'hui dans notre société, c'est le pape François dans une retraite aux évêques espagnols, il leur a dit, mais aujourd'hui les gens, ils disent, ben oui, ben il faut être chrétien, mais surtout, faut pas trop en faire. Qu'on aille à la messe, qu'on paye le denier de l'église, ça d'accord, mais non, on va quand même pas changer de vie. Et puis, il faut garder nos biens matériels, faut garder notre manière de vivre. N'en faisons pas trop. Moi, j'ai vu à Sceaux-de-Vaucluse, le fils d'un pâtissier, qui venait tellement souvent à l'église que sa grand-mère a dit à son fils, mais attention, il va trop à l'église, il en fait trop. C'est dangereux, ça. Et oui, mais c'est ça aujourd'hui. Et vraiment, Zachée, eh bien, il va couper avec toutes ses combines, il va réparer toutes ses injustices, et il va donner, jusqu'à donner, qui est la logique de l'amour. Il donne. Vrai changement de vie. Et c'est là, au désir de rencontrer Jésus, répond le fait que Jésus s'arrête, non pas simplement pour boire un pastis en passant, mais pour se reposer chez Zachée. Est-ce que nous, on est prêts à accueillir Jésus? Est-ce qu'on a ce désir de l'accueillir? Et si on l'accueille, est-ce que ça va transformer notre vie? Moi, je me souviens d'une retraite que j'avais prêchée, et puis, au terme de la retraite, il y a une personne qui était venue me voir, on sentait bien qu'elle avait compris ce que le bon Dieu lui demandait, mais elle avait peur. Elle avait peur de tout lâcher pour se laisser conduire. Et là, qu'est-ce que Jésus dit à propos de Zachée? Eh bien, il est à nouveau fils d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Laisse-toi conduire par moi, là où moi je veux te conduire. Eh bien, est-ce que nous, on est prêts à se laisser conduire par Jésus? Là où il voudra. Et cette personne, j'ai vu le moment où elle m'a dit non, je ne suis pas prête à dire oui à ce que Dieu me demande, à me laisser conduire par lui. Et c'est vraiment terrible ce face à face entre l'homme et Jésus et la réponse de l'homme que Jésus respectera, même s'il continuera à frapper à la porte. Et là, on sent bien que Jésus entraîne une vraie conversion du cœur et il place les exigences de la miséricorde à la véritable hauteur. Il faut un changement de vie concret. Il faut une vie nouvelle. Et là, c'est vraiment une interrogation pour tous les chrétiens. Est-ce que vraiment on vit cette conversion réelle dans notre vie quotidienne? Moi, je vois beaucoup de gens dans les paroisses, ils viennent à la messe le dimanche encore, même si progressivement les cheveux blanchissent de plus en plus, mais je pense à une dame qui m'avait écrit un jour de Pâques en me disant, c'est scandaleux, j'ai voulu aller à la messe pour Pâques, je suis arrivé chez les Carmélites, c'était marqué, en raison de la veillée pascale, la messe du dimanche de Pâques aura lieu qu'à 11h. Je file chez les franciscains, je trouve la même affiche. Et vous vous rendez compte, je recevais des amis, il fallait que je mette mon poulet au four à 11h. Ben quand même, mettre en balance la messe de Pâques et un poulet à faire cuire, mais quelle horreur! Et c'est là, mais combien de... Moi, j'entends aussi des paroissiens me dire, je reçois mes enfants dimanche prochain, alors je pourrais pas venir à la messe parce qu'ils n'y vont pas. Mais bon sang, c'est, si vous êtes chrétien, ben vous allez à la messe, et puis vous dites aux enfants, ben vous attendrez que je ressorte de la messe. Vous pouvez même ajouter, vous aurez le temps de mettre la table. Mais oui, mais c'est une commerçante aussi qui me dit, moi, mon père, j'étais curé de Sceaux-de-Vaucluse, c'était une charcuterie. Elle me dit, mais je peux pas venir à la messe du mois d'avril au mois de novembre parce que je fais mon chiffre d'affaires essentiellement le dimanche matin. Alors, moi, je lui ai dit à cette dame, je lui ai dit, madame, vous allez passer un deal avec l'Esprit Saint. Vous allez lui dire, tu t'occupes de mon chiffre d'affaires et moi, je vais à la messe. Et ben, le résultat, c'est qu'elle est venue au mois de novembre en me disant, monsieur le curé, c'est génial. J'ai été à la messe tous les dimanches et mon chiffre d'affaires a augmenté de 5%. Ben oui, mais occupe-toi du bon Dieu, il s'occupera de toi. Alors voilà, et j'en arrive maintenant, parce qu'il faut absolument que je voie la dernière perle qui est la plus importante, c'est Jésus reçoit les pécheurs à sa table. Ça, c'est vraiment le bijou de la miséricorde, et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, on n'est pas vraiment entré dans le mystère de la miséricorde. Et ce collier, il est de manière merveilleuse, il est construit autour de la mort de l'homme, de Jésus qui vient donner à la mort son véritable sens en la prenant et nous entraînant avec lui dans une mort qui est source de vie. Et puis après, les gens qui s'approchent de Jésus, le pharisien qui l'invite, mais pour discutailler, la femme pécheresse et Zachée qui se cache, mais dont la vie est fadasse, parce qu'elle est basée sur le matérialisme uniquement. Et là, vous avez la perle centrale. Alors, s'approchèrent de lui à le toucher les publicains et les pécheurs pour l'écouter. Les pharisiens et les connaisseurs des Écritures récriminaient contre lui. Alors, on traduit à ce moment-là scribe par les connaisseurs des Écritures. Car quel était le métier des scribes ? C'était, ils étaient dans les tribunaux, et lorsqu'un juge rendait un jugement, eh bien, il fallait qu'il mette des citations de l'Écriture pour baser son jugement dans la parole de Dieu. Mais les juges, ils savaient pas la Bible par cœur. Alors ils faisaient appel à des spécialistes, des connaisseurs des Écritures, qui étaient capables de vous dire Amos 3:5, voilà, ou Jérémie 16:5. Et les pharisiens, les connaisseurs des Écritures, récriminaient contre lui. Celui-ci, il reçoit les pécheurs et il mange avec eux. Alors ça, moi, je suis bouleversé. Par il y a deux versets, mais ces deux versets, c'est le cœur de notre vie en Christ. Pourquoi ? Parce que les pécheurs et les publicains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'approchent jusqu'à le toucher pour l'écouter. Et ensuite, on apprend qu'ils mangent avec Jésus. Il y a une convivialité de table et il y a une écoute. Ça vous fait penser à quoi ? Oh, Seigneur, Esprit Saint, là, remuez un peu tous là. À l'Eucharistie, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la parole qu'on accueille, qu'on écoute, mais c'est extraordinaire. Au cœur de ce collier de la miséricorde, vous avez ces deux versets, les gens qui s'approchent de Jésus jusqu'à le toucher pour l'écouter. Entre parenthèses, vous avez tous des Bibles. Vous l'ouvrez tous les jours. Quel drame. Seigneur, ils savent pas ce qu'ils font. Mais oui, parce que la parole de Dieu, Moi, je dis souvent que chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est Noël pour moi. Pourquoi ? Parce que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chaque fois que je lis un texte le Verbe, la parole, elle prend vie en moi. Elle s'incarne en moi. Donc, c'est vraiment un mystère où on touche Dieu, on touche Jésus, et Jésus prend vie en moi à travers l'écoute de la parole. Et je me souviens un jour, Albert de Montléon, j'étais aux études à Toulouse, et il présidait la messe du dimanche, il y avait 1000 personnes, et on se met assis après l'oraison, et il y avait un peu de brouhaha dans l'église, et le lecteur commence lecture de... Et Albert, il jaillit de son siège de président et il crie « Arrête !» Alors évidemment, c'est grand silence, le président qui crie « Arrête hein, !» au lecteur. Et il dit à l'assemblée « Mais on n'est pas prêt à écouter la parole, on n'est pas prêt à l'accueillir. Alors on va faire un temps de silence pour accueillir la parole. » On a fait une minute de silence et j'ai rarement vécu une liturgie de la parole d'une telle profondeur. Et c'est pour ça que il faut accueillir la parole, c'est vraiment la parole qui prend vie en moi. Et manger avec lui, ben c'est l'Eucharistie, c'est le pain et le vin partagés, son corps et son sang. Et quand les gens me disent, moi je ne vais pas à la messe parce que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, moi je réponds, mais vous avez bien raison, ils sont plutôt pires même. Ben oui, mais ils se savent pardonner par Dieu. On est tous des pauvres. Thérèse d'Avila, quand elle dit « Je suis la plus grande pécheresse de l'humanité », ben oui, parce que on est tous des pauvres, mais on est aimé et pardonné. Et là, on peut repartir au pied du calvaire, on peut repartir à Naïn, on peut regarder cette femme qui lave les pieds, les essuie et met du parfum. On peut regarder Zachée et accueillir Jésus qui prend corps en moi. Car l'Eucharistie, c'est vraiment le moment où le Christ prend vie en moi. Et la lettre aux Éphésiens, je crois, ce n'est plus moi qui vis, ou aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et donc, vous avez l'Eucharistie qui est le cœur de la Torah de la miséricorde. Alors après, vous avez quatre colliers. Demain matin, j'essaierai d'étudier avec vous le premier collier. Et puis peut-être, si on a un peu de temps, on jettera un coup d'œil sur le troisième collier. Et là, vous avez le jeune bélier égaré, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été berger, mais quand dans nos évangiles, on nous dit « Jésus prit la brebis sur ses épaules », eh ben, excusez-moi, mais une brebis, ça peut pas se porter sur les épaules. Alors, en fait, en araméen, c'est un jeune bélier. Les jeunes béliers sont déjà un peu tout fous. Et pendant que le berger était avec ses brebis, il avait repéré des petites agnelles à gauche, à droite, et il commençait, et il est parti, il s'est perdu. Mais voilà, mais j'arrête. Alors, on va... est-ce que le Père Benoît pourrait nous prendre une antienne à l'Esprit Saint pour finir, et puis après on se prépare à aller à l'Eucharistie.